Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission la plus rock de la bande FM. Bonsoir à tous. Je serai seule ce soir, donc je vais essayer d'animer toutes les deux parties. En particulier, dans une première partie, nous allons commencer par recevoir un auteur dont on vous parle régulièrement, tout au moins en général quand il a une actualité littéraire. Cet auteur, c'est Marin Le Dain. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, un roman que nous avons bien aimé. Et pour terminer, on va retrouver quelqu'un que je suis sûre vous appréciez beaucoup. C'est Frédéric Prieux, qui va nous parler de BD et de toutes ces bulles noires qui sortent et qui sont sorties cette année. Il va peut-être nous faire un petit peu le point sur l'ensemble de l'année 2016 d'ailleurs. Et je crois qu'on a le plaisir de recevoir tout de suite Marin Le Dain. Marin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, c'est très gentil de prendre un petit moment pour parler avec nous de En Douce. En Douce, c'est le roman qui est paru au début du mois d'octobre aux éditions Ombre Noire chez Flammarion. Donc, c'est votre troisième chez Ombre Noire et votre onzième roman, c'est ça ?
Alors, c'est même mon quatrième chez Ombre Noire.
Pardon, quatrième chez Ombre Noire. Et puis, des essais aussi, des romans aussi pour adolescents. Mais enfin, bon, moi, j'aime pas trop caser ces romans pour adolescents. On peut les conseiller aussi. Moi, je pense surtout à ce très beau Luz. Voilà, je conseillerais aussi pour des jeunes adultes et des moins jeunes.
Moi aussi.
Et
oui.
Puis, j'aimerais rappeler, parce que je n'aime pas faire de biographie, mais ça va avoir son importance, je pense, votre formation initiale de sociologue. Et dans vos écrits, si je parle de que ça a une importance, c'est, par exemple, dans le thème du roman En Douce, me semble-t-il, c'est une réflexion sur notre place de la société, dans la société, en fonction un petit peu du travail que l'on a, du porte-monnaie que l'on a, du physique que l'on a.
Oui, En Douce, c'est aussi ça. C'est un peu le prolongement d'un travail qui avait été entamé dans un roman qui s'appelle Les visages écrasés, sur ce qu'on peut appeler une sorte de critique de la vie quotidienne, c'est-à-dire comment on est défini par le travail et comment on est aussi défini dans le hors-travail, ce qui est aussi le cas dans En Douce, notamment autour de la question du déclassement social.
Et justement, ce déclassement social, alors je vais me permettre, je vais essayer de bien lire, de lire un petit dialogue entre Émilie et Simon. Et donc, après, on présentera ces deux personnages. Et tu te dis que le problème, c'est pas toi, c'est ta place dans la société. C'est le fonctionnement même de la société, c'est ça ? Émilie se prit la tête entre les mains. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. La société, ça signifie quoi, la société ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une sorte d'organisation secrète avec un grand patron et des sous-chefs qui obéissent aux ordres et passent leur temps à réfléchir aux meilleurs moyens de mettre des gens comme toi et moi dans la merde ? Est-ce que c'est un gros bordel rempli de putes, de filles battues et violées, de macros, de types comme toi en mal d'amour ou incapables d'aimer et de connards qui ne prennent leurs pieds qu'en faisant du mal aux femmes ? Point d'interrogation. Ce court extrait pour illustrer un petit peu donc cette idée de ces interrogations. Et justement, après, quand on a toute cette réflexion, quand on a toutes ces idées, comment on fait pour trouver les personnages qui vont aller avec ?
Ah.
C'est-à-dire, en fait, comment on va passer de ce qui pourrait être un essai très bien documenté, et on sait que vous savez très bien le faire, à une fiction ?
Alors, en fait, c'est un cheminement assez, assez différent. Alors pour le cas d'En Douce, parce que c'est vraiment ça change un petit peu à chaque livre. Pour le cas d'En Douce, c'est deux choses. C'est d'une part, en fait, il y a eu une lecture. Il y a eu la lecture d'un livre qui s'appelle La Condition pavillonnaire de Sophie Livry.
Mmh.
Qui est un magnifique roman qui est paru il y a deux ans sur l'histoire d'une femme qui naît dans les années 50 et qui meurt de sa belle mort à peu près aujourd'hui et qui écrit à la deuxième personne du singulier et qui raconte la condition de cette femme, qui est une femme des couches moyennes, qui fait des études, qui a un amant à un moment donné, qui a un travail, qui fait construire une maison dans un lotissement. C'est quelque chose de très, très factuel, un petit peu comme dans les choses de Pérec. Et voilà, et ce livre, moi, m'a vraiment marqué, et j'avais envie depuis, j'avais en tête depuis un moment ce personnage d'Émilie, cette femme qui était amputée d'une jambe, qui dans mon esprit était unijambiste.
C'est venu. Il y avait, disons que sa place dans la société, c'était un handicap.
Alors, elle avait un handicap physique, mais ce handicap physique, c'était quelque chose qui servait, dans mon esprit, qui servait à masquer un handicap social.
Voilà, oui.
Cette
ambivalence.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on focalise sur ce handicap physique, mais ce qui est important, c'est le handicap social qu'elle a derrière. Et son handicap social, c'est que c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup d'entre nous, issu de couches populaires, comme ça se pratique depuis 40-50 ans, a eu la possibilité de faire des études, a grimpé, on va dire, d'un échelon dans la hiérarchie sociale. Et elle a eu cet accident qui l'a privée d'une jambe, et qui l'a fait redescendre d'une classe, si vous voulez. Et du coup, elle est confrontée un petit peu à ses aspirations, aux aspirations que ses parents avaient pour elle, et comment elle va regarder un petit peu autour d'elle et voir des femmes de son âge qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont une petite, qui sont fait construire une villa, qui ont pas des revenus mirobolants, mais qui sont ce qu'on appelle des couches moyennes, basses, quoi, voilà, qui ont peut-être fait une piscine, qui ont un petit bonheur comme ça. Et Émilie, c'est quelqu'un qui est partagé entre son désir, cette espèce de son envie d'être comme eux, de partager leur bonheur, et à la fois elle n'y arrive pas, c'est-à-dire que quelque part elle n'en veut pas, elle a le sentiment que c'est aussi un mirage, qu'il y a une espèce de miroir aux alouettes, et que c'est pas de ça dont elle a envie, et que c'est un espèce de petit bonheur sympathique, consumériste, travail, etc. Elle aspire pas à ça.
Mais on voit dans la description de sa soirée d'anniversaire, on le voit très bien, c'est pas un moment joyeux, dirait-on.
Oui, c'est ça. Et elle a envie de ça, et à la fois elle le fuit comme la peste, parce qu'elle sent bien que c'est pas forcément une bonne chose, et que c'est quelque chose qui est un miroir aux alouettes, quoi, qui est vraiment une espèce de piège qui est tendu, et elle a pas envie de ça, voilà. Mais elle a pas
ceci
forcément.
Ceci dit, elle n'a certainement pas non plus envie d'avoir un accident, d'être amputée d'une jambe,
de tomber,
et puis. Début du roman, et là vous nous mystifiez complètement, et ça je trouve que c'est remarquablement bien fait, si je peux me permettre. Le début du roman, c'est un fait divers. Hein. Cette belle jeune femme, parce qu'elle est très belle. Quand elle est dans sa robe moulante, une soirée, enfin plutôt une fête de petite ville, et puis elle drague ouvertement un homme, Simon. Ça se conclut, elle l'emmène chez elle, une soirée assez classique. Et puis, au moment où de conclure, justement, elle lui tire dans la jambe. Et là, on pourrait dire, on va avoir un suspense, un face-à-face, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va... Et puis non, ce face-à-face, ça va être en fait deux introspections. Donc Émilie va revenir en elle-même et se souvenir de toute sa vie, donc un petit peu de toute ce handicap qu'elle traîne finalement depuis longtemps. Et puis on va aussi découvrir Simon. Simon qui dit à un moment donné, je ne suis rien, je n'ai jamais rien été. On parle un peu de Simon.
Simon, c'est un petit peu le... C'est un petit peu l'alter ego d'Émilie. C'est comme ça que je l'ai construit. C'est-à-dire que, comme elle, il est plutôt au bas de l'échelle sociale. Comme elle, il a eu aussi des accidents de vie. Comme elle, il est célibataire. Il n'a pas réussi vraiment à se caser. Quelque part, il n'a pas sa place vraiment. Enfin voilà. Et en même temps, à la grande différence d'elle, lui, c'est quelqu'un de complètement fataliste. Et c'est ce qui la choque. C'est ce qui l'agace. C'est ce qui la heurte, parce que elle a envie de comprendre, elle a envie de donner un sens à sa vie, et quand elle le voit lui, elle a l'impression qu'il se contente de ce qu'il a. Et il le lui dit d'ailleurs, il lui dit dans le roman, j'aspire à rien d'autre, parce que je sais très bien que la société va le faire à ma place, et que les gens comme moi restent là où ils sont, et que je vais pas devenir ce que je ne suis pas, je peux pas aspirer à ce que je ne suis pas, et donc il se contente de ce qu'il a, et elle, ça la révolte. Et c'est vrai, j'ai vraiment construit ce personnage là en fonction d'Émilie, Parce qu'à la fois, elle est attirée par ça. Elle se dit, mais si seulement je pouvais être comme lui, c'est-à-dire ne me soucier de rien et avancer comme ça, et puis tant pis, je serai toujours l'employé de quelqu'un, je serai toujours la servante de quelqu'un, ou je serai toujours le souffre-douleur d'un homme, ou etc. Je serai toujours comme ça. Je serai toujours la dominée ou la sujettie, comme on dit. Et à la fois, elle a pas envie de ça du tout, et elle a envie de quelque part son geste de lui tirer dessus, c'est un peu ça.
C'est plus métaphorique.
Elle lui tire dessus et elle lui dit, bah maintenant on va pouvoir discuter, parce que moi j'ai envie de comprendre pourquoi toi tu vis les choses comme ça et pourquoi moi je les vis pas comme ça.
On est toujours un petit peu dans la métaphore. La blessure, elle est à la fois physique, que ce soit pour Émilie ou pour Simon, mais c'est aussi les blessures profondes qui sont dans leur tête surtout.
Oui, puis c'est les blessures qu'on a tous, quoi. Toutes et tous. C'est les petites blessures de la vie. C'est un accident et c'est terrible et c'est singulier et à la fois c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Il y a malheureusement beaucoup d'accidents, beaucoup d'accidents de la vie qui peuvent être des maladies, qui peuvent être des accidents de voiture ou tout ce qu'on veut. Et à la fois c'est extrêmement banal d'une certaine manière. Mais ce qui n'est pas banal, c'est que chaque parcours est singulier et elle a envie de. Moi, j'aime bien l'appeler une perdante magnifique. C'est-à-dire que il faut qu'elle comprenne que elle a perdu, parce qu'on a perdu, on a tous perdu. On ne gagnera jamais, il n'y a qu'une poignée de gagnants. Je ne parle pas dans le sens winner et loser, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est vraiment cette idée que dans les rapports sociaux, il y a des perdants, c'est l'écrasante majorité, et malheureusement, c'est comme ça. Mais magnifique, parce que c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à donner du sens et qui relève la tête. Quoi. Voilà.
Qui agit, mais elle a quand même touché le fond, parce que ce n'est pas un hasard. Là aussi, on est complètement dans la métaphore. Donc, elle tombe, une jambiste, elle va perdre son boulot, enfin perdre. Elle va quitter son boulot plutôt, et elle se retrouve environnée, non pas d'êtres humains, parce qu'elle choisit ce dernier boulot, peut-être pour être isolée et tout, mais elle n'est plus, elle est avec des chiens. Et les chiens, là aussi, c'est un mot qui désigne des animaux, mais qui peuvent... qui est aussi une injure. On est aussi dans la métaphore quand elle travaille dans ce chenil-là.
Oui, alors c'est ce boulot qu'elle a fini par trouver, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et donc elle se retrouve ouvrière, en fait, employée dans un chenil. La compagnie des chiens, c'est une espèce de... c'est une espèce de violence qu'elle se fait à elle-même, parce que elle aime les bêtes, hein, mais elle...
C'est pas drôle tous les jours de s'en occuper.
Elle était infirmière avant, elle soignait des êtres humains. Et donc c'est une manière aussi à elle de se faire du mal, quoi. C'est-à-dire de se dire, je ne vaux plus que ça. Je mérite même pas de soigner des êtres humains maintenant que je suis handicapé. Donc je ne peux soigner que des chiens. Et à la fois, elle trouve une espèce de paix avec ces animaux qui ne font pas de reproches, qui ne la jugent pas, qui ne va, voilà, etc.
Donc c'est aussi c'est avant tout une réflexion aussi sur le monde du travail. Simon en parle aussi, encore une fois plus soumis, plus. Et puis il y a ce personnage de femme, Émilie, qui est une femme forte et qui fait effectivement penser. Alors vous avez dit, c'est la suite du travail entamé dans un très très beau roman qui est paru il y a quelques années au Seuil, hein, qui est maintenant disponible en poche. Et ce livre s'appelle toujours Les visages écrasés. Avec un autre personnage de femme forte, Carole Mathieu, un médecin du travail. J'ai remarqué, me semble-t-il, que dans vos romans, les êtres humains forts, ceux qui finalement se posent peut-être un petit peu plus de questions, sont un peu moins veules, ce sont les femmes.
Oui, c'est marrant ça. Il faudrait que j'entame une psychanalyse.
Ça me semble un petit peu redondant dans votre œuvre.
Je saurais pas expliquer ça. Carole Mathieu, c'est aussi comme Émilie, c'est aussi une perdante magnifique. C'est une médecin du travail qui a perdu, quoi, qui sait qu'elle peut rien contre une politique managériale, la politique managériale d'un grand groupe, qui n'est qu'une médecin du travail, qui est là pour appliquer, pour faire son métier et appliquer un certain nombre de règles, et qui choisit elle aussi à un moment donné de se rebeller et de dire j'ai perdu peut-être, mais je vais le faire avec panache et je vais faire du bruit et on va entendre parler de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui ne va pas, quoi, dans l'entreprise.
Et Émilie, voilà, toujours pareil, avec beaucoup de panache, décide de régler ses comptes avec une certaine société, et finalement elle choisit une façon de bouger Simon, de lui faire réaliser des choses. Alors évidemment la façon est un petit peu violente au début, mais finalement on peut espérer que au fil des pages ça va un petit peu agir sur ce perdant qui est quand même, voilà, qui au départ veut pas prendre son destin en main.
Bah, Émilie, elle agit en fait avec ses armes. Et elle a les armes qu'on a tous, c'est-à-dire pas beaucoup. Elle a la force de ses bras, si j'ose dire. Elle a son amour de la vie, elle a son intelligence. Mais elle a pas le pouvoir. Elle a pas le pouvoir de changer les choses. Elle a pas forcément aussi. Alors elle a fait des études. Elle est devenue infirmière, mais elle n'est pas. Elle a pas eu accès à des grandes études. Elle a pas eu accès à un milieu privilégié socioculturellement qui lui a apporté de quoi comprendre le monde dans lequel elle est. Ces armes intellectuelles là, il faut qu'elle les forge, et donc elle agit comme elle peut. Donc son réflexe dans sa situation de détresse, c'est de, alors évidemment c'est un polar, c'est un roman noir, donc c'est tout de suite un peu exacerbé, mais c'est de rattraper cet homme qui avait provoqué l'accident dans lequel elle a perdu la jambe, de lui tirer une balle dans la jambe pour le remettre à égalité, et pour pas qu'il s'enfuit, et pour lui dire voilà, maintenant t'es à ma merci, on va pouvoir discuter, parce que elle a les armes du pauvre, quoi, si vous voulez. Elle fait ce qu'elle peut, quoi, voilà.
Mais elle fait des choses importantes, comme Carole Mathieu. Alors Carole Mathieu, on en parle pendant les deux dernières minutes, parce qu'une deuxième actualité, c'est que Les Visages Écrasés ont été adaptés pour le cinéma, produits par la chaîne Arte. Donc ça sort d'abord chez Arte, mais ensuite on va avoir la grande chance de pouvoir voir ce film au cinéma. Donc Carole Mathieu, Carole, ce personnage aussi de femme très forte, qui a un réflexe aussi un jour. Alors je veux pas vous demander comment vous avez trouvé ce film. Alors, le passage sur Arte, c'est le 18 novembre, je ne me trompe pas ?
C'est ça, c'est le 18 novembre, vendredi 18 novembre à 20h50.
Voilà, donc ça, ne loupez pas ça, mais d'un autre côté, c'est quand même mieux de voir les films de cinéma en salle, dans les salles obscures. Donc, après, on a une sortie en salle le 7 décembre.
Exactement.
Voilà, et juste, alors je ne veux surtout pas vous demander comment vous avez trouvé le film, vous avez participé au scénario, mais juste quel effet ça fait, un personnage avec qui on a vécu pendant un moment, quand on tricote un personnage de fiction, sur lequel on a mis tous ces mots, sur lesquels, quand on la voit incarnée par une actrice, et quelle actrice, Isabelle Adjani, qu'est-ce que ça fait ?
En fait, c'est très troublant parce qu'effectivement, j'ai passé un paquet de nuits et un paquet de jours avec ce personnage. J'en parle encore régulièrement. Ça fait 6 ans, 7 ans que je vis avec elle, en fait, hein, quelque part. Et alors, d'une part, c'est une actrice de talent qui l'interprète. Donc, il y a une justesse de ton, une justesse de propos. Elle s'est vraiment immergée. Enfin, comment dire, elle est habitée par Carole Mathieu. Isabelle Adjani, c'est Carole Mathieu dans le film, quoi. Vraiment, c'est assez épatant. Temps, quoi, d'une certaine manière.
Et alors, c'est si le troublant. Créateur le dit, ça doit être vrai.
Oui, non, mais vraiment. Puis j'ai été vraiment bluffé. Puis j'ai eu la chance d'assister au tournage et de participer à quelques scènes et de la voir en action en tant qu'actrice, et voir comment elle a choisi d'habiter Carole Mathieu et de se mettre au service de ce personnage, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est pas le personnage qui est au service d'Isabelle Adjani, c'est bien l'inverse. Et donc c'est très, à la fois c'est très fort, et à la fois c'est étrange, parce que c'est un personnage de fiction. Cette Carole Mathieu n'existe pas. Je me suis inspiré de personne en particulier, et du coup d'un seul coup elle devient chère, quoi. Et elle est marquante, quoi. Enfin, voilà. Et puis elle sert aussi c'est ça qui est assez formidable dans
les idées
par rapport
au
bouquin, c'est que on a vraiment incarne ce que c'est que la violence au travail, ce que c'est que la violence des politiques managériales, à travers juste un personnage dans son quotidien, alors en l'occurrence le médecin du travail sur une plateforme téléphonique, et c'est extrêmement parlant, et ça vaut 1000 discours.
Ben, merci beaucoup. Moi, je suis pas sûre que ça vaille plusieurs livres, parce que moi, j'aime bien me plonger dans les romans. Donc, notre temps est malheureusement écoulé. On va rappeler donc En douce, sorti très récemment chez Ombre Noire. Mara Le Dain, merci beaucoup. Et on rappellera les actualités, vos actualités sur le site. Merci beaucoup, Marin. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.